Voilà, bonjour tout le monde. Voilà. J'aimerais qu'on regarde plusieurs endroits, mais notamment Ésaïe 35, qui est un court passage de la Bible. Donc vous pourrez le lire chez vous et le relire. C'est aussi un message plein d'espérance dans Ésaïe 35. Il y a beaucoup de choses qui encouragent. C'est pas dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, il y a beaucoup de paroles qui sont des paroles d'encouragement. D'exhortation, on a vu ce matin Ésaïe 53, déjà des paroles prophétiques concernant la venue du Seigneur, et là c'en est une aussi. Et dans le verset 4 de ce chapitre, il est dit à la fin du verset 4, « Il viendra lui-même, c'est-à-dire Dieu, et vous sauvera. » Alors pour nous c'est un terme familier d'être sauvé, enfin, d'associer le terme de « salut » à Dieu, parce que effectivement c'est ce que nous prêchons que Jésus-Christ est venu sur la terre pour que les hommes et les femmes qui l'acceptent soient sauvés. Ce terme, quand on l'entend pour la première fois, peut paraître étrange, parce qu'on va dire sauvé de quoi? Je ne suis pas en train de me noyer, je ne suis pas en train d'être incendié, donc sauvé de quoi? Eh bien, bien sûr, Jésus est venu pour nous sauver du péché, de la domination du péché. Il est venu aussi pour nous sauver de la mort éternelle, pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ça le message de l'Évangile qui est déjà là prophétisé dans Ésaïe chapitre 35. Et il est dit au verset 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Voilà le planning de Jésus-Christ venu sur la terre, n'est-ce pas? Quand il est venu sur la terre, il est venu pour sauver. Il est venu, comme a dit Pascal tout à l'heure, pour sauver du péché, de la puissance des ténèbres qui liait les hommes et les femmes. Et seulement certains ont été sauvés. Il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver ceux et celles qui acceptaient son salut. Et c'est ça un message merveilleux, c'est qu'on peut accepter ce matin encore, que Jésus intervient dans nos vies. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de Jésus? C'est très simple, n'est-ce pas? C'est dit ici, on le voit, si vous lisez dans les évangiles, eh bien, les yeux des aveugles s'ouvrent. Alors Jésus l'a fait physiquement, et je crois que c'est encore une vérité pour aujourd'hui, évidemment, que physiquement des aveugles soient guéris. Jésus a guéri des aveugles sur la terre, on a quelques témoignages précis, mais on a aussi une évidence qu'il l'a fait à plein de reprises. Mais il le fait spirituellement, il ouvre les oreilles des sourds d'une manière spirituelle aussi. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus aujourd'hui, en considérant en quoi on est aveugle sur le plan spirituel, en quoi on est sourd sur le plan spirituel. Et j'aimerais qu'on puisse considérer en parallèle avec notre étude ce matin, eh bien un passage dans Luc, dans l'évangile de Luc, où il est dit quelque chose de assez étonnant, quelque chose qui nous remet en question, n'est-ce pas aussi? C'est en Luc chapitre 7 au verset 22. C'est dans le contexte Jean-Baptiste qui avait des doutes. Il était troublé par des doutes parce qu'il s'est dit, il était en prison et il s'est dit, mais est-ce que nous devons attendre un autre ou est-ce que Jésus est véritablement le Messie? Pourtant, il connaissait Jésus. Pourtant, il était de la même famille que Jésus. Pourtant, il avait préparé le chemin. Il avait été envoyé pour préparer le chemin du Messie. Mais il a eu des doutes, et peut-être ce matin vous avez des doutes dans vos cœurs parce que vous êtes fatigués. Jean-Baptiste était fatigué, Jean-Baptiste était lassé, il avait été mis en prison par Hérode, simplement parce qu'il avait établi la justice de Dieu, il avait dit à Hérode que ce que Hérode faisait n'était pas bien. Et je pense que Jean-Baptiste était découragé. Jean-Baptiste se demandait, mais pourquoi je finis en prison alors que ma mission c'était de préparer le chemin du Seigneur. Et quelquefois, c'est comme ça, n'est-ce pas? On pense que si on suit la volonté de Dieu, Si on fait la volonté de Dieu, on va avoir des bénédictions, on va avoir des encouragements. Les choses vont se passer de manière merveilleuse autour de nous et tout ce qu'on voit, c'est qu'on est en prison. C'est que les circonstances sont négatives. C'est que nous apparaissent comme étant négatives. Mais donc, il va envoyer de ses disciples, des disciples de Jean-Baptiste, il va les envoyer vers Jésus en disant, voilà, Jean-Baptiste demande, est-ce que tu es le Messie ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et Jésus, enfin Luc nous dit, l'évangéliste Luc nous dit, qu'à l'heure même, Jésus avait guéri des malades, à l'heure même, donc c'est au verset 21 du chapitre 7, alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et rendit la vue à plusieurs aveugles. À l'heure même, ça veut dire que c'était, voilà, dans l'heure qui s'était passée, il avait fait ça. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, dans les heures qui nous sont données, les nombreuses heures qui nous sont données? Mais Jésus, voilà ce qu'il faisait, voilà son œuvre, voilà ce qu'il appelle l'œuvre du Père. Il a dit, croyez en moi à cause des œuvres du Père que je fais. Et voilà les œuvres que Jésus faisait sur la terre. Et Jésus a répondu aux disciples de Jean. Il n'a pas dit, oh oui, je me souviens de Jean. Tu peux lui dire que je suis celui que Dieu a envoyé, je suis le Messie. Il a dit, non, dites-lui que ce que vous avez vu et entendu. Voilà le témoignage qu'on peut donner, n'est-ce pas? Et que le seul témoignage qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est ce qu'on a vu et entendu nous-mêmes. C'est ce qu'on a vécu dans notre propre vie qui peut représenter un témoignage puissant vis-à-vis des autres autour de nous. Il a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le témoignage que Jésus pouvait donner de lui-même. Et ce que je crois est très important pour nous, c'est de pouvoir voir cela autour de nous et dans nos propres vies. Que ceux qui étaient aveugles commencent à voir. Que ce qui était sourd à la parole de Dieu commence à entendre. Je me rappelle moi-même quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu lorsque j'étais adolescent. C'était totalement différent. J'avais entendu bien des fois depuis mon enfance les choses qui concernaient la Bible. J'avais entendu plein de fois les choses qui concernaient Dieu, mais quand Dieu a commencé à parler à mon cœur, c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je savais venait de Dieu, parce qu'il y avait quelque chose qui s'était ouvert dans mon esprit, qui permettait de comprendre, de savoir que c'est Dieu qui me parlait. J'ai commencé à comprendre des choses dans la Bible que je ne pouvais pas comprendre avant. Je me rappelle même le prophète Ésaïe qui est j'ai compris qu'il y avait un message pour moi. Avant, c'était quelque chose d'incompréhensible. C'était pour moi quelque chose qui était juste historique, un récit d'un prophète. Mais j'ai commencé à comprendre que ces paroles s'adressaient à moi. Et le problème de notre vie, c'est qu'on est dur d'entendement. Le problème dans nos vies, n'est-ce pas, c'est qu'on est aveugle aux choses que Dieu veut nous révéler, veut nous montrer. Et nous sommes aveugles pour beaucoup de raisons. Les problèmes de vision, les problèmes au niveau de la vue sont multiples. Et il y a des grandes catégories de déviation de la vérité. Et notamment, la première, c'est les illusions qu'on peut avoir. Et j'aimerais juste mentionner ça comme un premier problème, les illusions. N'est-ce pas? C'est l'illusion, vous regardez sur Internet, vous avez les illusions d'optique. Il y en a qui sont géniales, il y en a qui ne sont pas très convaincantes. Mais il y en a qui sont extraordinaires, des illusions d'optique. On a l'impression de voir quelque chose, et en fait, ce n'est pas la réalité qu'on voit. On voit une déformation de la réalité. Et c'est comme ça, quelquefois, dans la vie des hommes et des femmes. C'est dans la vie des chrétiens, quelquefois. N'est-ce pas? Ils s'attachent à des illusions. Ils s'attachent à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et vous savez que Platon a décrit la condition de l'homme comme étant des esclaves qui sont au fond d'une caverne, c'est l'allégorie de la caverne. Et il a dit, ces hommes sont attachés, sont enchaînés au fond d'une caverne. Et ce qu'ils voient, c'est la paroi de la caverne, le fond de la caverne. Et sur cette paroi, il y a des ombres qui apparaissent gigantesques. Il y a des ombres avec des formes étranges, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de la caverne, ou devant l'entrée, il y a un feu, et il y avait des gens qui passaient entre le feu et l'entrée de la caverne, et le feu projetait l'ombre de ces personnes sur le fond de la caverne, et ça donnait une image gigantesque. Les gens portaient des fardeaux sur les dos, et ça donnait une forme extraordinaire, une forme bizarre à ces ombres qui paraissaient sur le fond de la caverne. Et Platon disait que les hommes sont la condition de l'homme, c'est, elle est telle qu'il s'attache à des ombres et il dit voilà la réalité, voilà ce qui se passe, regardez les monstruosités qui se passent à l'extérieur, regardez les formes bizarres des êtres qui sont libres, des êtres qui sont à l'extérieur. Et peut-être depuis des années on regarde aussi des ombres, peut-être on regarde quelque chose et on dit oh c'est une réalité qui me fait peur. Être libre me fait peur. Vous savez que c'est le premier obstacle que les gens ressentent lorsqu'ils commencent à être interpellés par Dieu. Ils disent, oh oui, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. Est-ce que je vais être pris dans un mouvement? Est-ce que je vais être pris dans une secte? Est-ce que je vais être pris? Est-ce qu'on va... Je vais perdre ma liberté? Est-ce que je vais pouvoir supporter de me trouver avec des êtres aussi gigantesques? Aussi avec des formes aussi bizarres, n'est-ce pas? Et la peur nous fait garder cette condition enchaînée au fond de cette caverne. Mais Platon dit, Platon c'est pas dans la Bible, hein, on est très clair, mais je veux dire l'allégorie est très intéressante. Il dit que si on venait libérer, n'est-ce pas, ces prisonniers et qu'on les amenait à la lumière, ils verraient que la réalité est différente de ce qu'ils avaient cru. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus a fait pour les hommes et les femmes. C'est qu'il sait très bien qu'on s'attache à des ombres. Il sait que depuis des années, vous regardez, on regarde quelque chose et on dit « Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça ma vie. C'est ça ce que je sais de l'extérieur. » Et Jésus veut nous libérer de nos chaînes. Il est dit dans Ésaïe 61, encore une fois, le livre du prophète Ésaïe, le programme de Jésus, un programme que Jésus a repris, vous le lisez dans Luc chapitre 4, je crois, où Jésus s'est attribué cette mission, qu'il est venu libérer les captifs, proclamer aux captifs la délivrance. Et c'est un message qui est essentiel. Si on ne peut pas dire, voilà, je sais que j'ai été délivré, je sais que j'ai été libéré de mes chaînes, je sais que ce que je regardais n'étaient que des ombres vaines, les plaisirs auxquels j'étais attaché, les choses qui attiraient mes regards, qui attiraient toute mon attention, qui attiraient mon intérêt, ce n'étaient que des ombres vaines. Et je croyais que c'était ça la réalité. Je croyais que c'était ça le bonheur. Je croyais que c'était ça la vie. Jésus veut vous libérer, veut me libérer ce matin de ces illusions. Il veut nous libérer de ses croyances. Oh, combien parmi les ombres figurent aussi les religions, n'est-ce pas? Les religions vous disent, voici, c'est Dieu. Regardez cette paroi-là, c'est Dieu que vous voyez. Alors que Dieu n'est pas du tout une ombre qui passe sur le fond d'une caverne. Dieu est la lumière elle-même qui resplendit, qui enlève les ténèbres. Et Jésus veut libérer les hommes et les femmes. Et il veut nous amener à la lumière pour nous montrer comment, ce que c'est la réalité de ce qu'il a. Et je crois que c'est aussi un message pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis longtemps, de pouvoir dire, Seigneur, libère-moi, il y a encore des chaînes qui me retiennent au fond de la caverne. Il y a encore des illusions auxquelles je m'attache. Il y a encore des choses auxquelles je crois, qui ne sont que des ombres qui passent, parce que je sens que ce n'est pas la réalité. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre que je dois découvrir. Eh bien, ce matin, vous pouvez le faire. Ce matin, je peux le faire en venant à Jésus, simplement avec un esprit sincère, en disant, Seigneur, fais cette œuvre dans ma vie. Libère-moi de mes chaînes. Libère-moi de ce qui me fait peur concernant le Saint-Esprit de Dieu. Combien de chrétiens sont enchaînés? Et je le dis avec beaucoup de respect parce que je comprends les raisons pour lesquelles ça se produit. Ils sont enchaînés au fond d'une caverne qui leur fait dire que le Saint-Esprit, c'est ce que je vois sur le fond de la caverne. et ils ne connaissent pas la réalité de la présence du Saint-Esprit parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont entendu beaucoup d'histoires là-dessus et ils ont peur qu'ils perdent le contrôle. Et le Seigneur veut nous libérer, nous amener dans son admirable lumière. Ça, c'est le programme de Jésus-Christ. Mais vous savez, il n'y a pas que Platon qui a parlé des hommes et des femmes qui étaient liés au fond d'une caverne, parce que Jérémie, avant Platon, avait reçu la parole de Dieu concernant le peuple d'Israël. Et Dieu avait demandé à Jérémie de faire quelque chose d'allégorique. Vous trouvez ça dans Jérémie chapitre 13. Il a dit, prends une ceinture de lin et va la mettre, pas dans une caverne, mais dans la fente d'un rocher. Ça, c'est l'équivalent d'une caverne, près de l'Euphrate. Et voilà, tu vas mettre cette ceinture-là. C'est tout. Alors Jérémie a exécuté. Vous savez, c'est bizarre, hein? Mais Jérémie, il était un homme extraordinaire parce que Dieu lui demandait des choses étranges. Et Dieu savait qu'il pouvait demander ça à Jérémie. Jérémie le faisait. Jérémie obéissait. Et il faisait ces choses parce qu'il savait que ça avait une valeur symbolique, que Dieu allait parler là-dessus. Donc il est allé mettre cette ceinture. Il a dû dire, mais pourquoi Dieu me demande d'aller mettre une ceinture? Et vous savez, il n'était pas le genre de personne qui raisonnait en disant, ah non, c'est pas raisonnable, donc je ne vais pas le faire. Il le faisait, il exécutait ce que Dieu lui disait de faire. Et donc il est allé mettre, dans Jérémie chapitre 13, vous lisez ça, il est allé mettre cette ceinture dans ce creux du rocher, dans cette caverne ou ce creux du rocher. Il est allé mettre cette ceinture. Et quelques jours après, Dieu lui a dit, allez, va chercher la ceinture maintenant. Donc il est allé et la ceinture était abîmée, elle était moisie, c'est normal. C'était près de l'Euphrate, il y avait l'humidité et la chaleur. Et donc, cette ceinture était abîmée. Et Dieu a dit à Jérémie, tu vois cette ceinture, comme un homme se ceint d'une ceinture. Moi, je m'étais ceint de mon peuple. C'est mon peuple qui a été dans ce creux de rocher et qui s'est gâté, qui s'est moisi, qui s'est abîmé. Et il a dit, voilà, c'est ma gloire, ma louange, mon peuple qui est comme cela. C'est l'état d'Israël. Et c'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir ce matin, qu'on a connu quelque chose de bon. Quelquefois, c'est dans l'enfance. Combien de gens ne le diront jamais, mais ils se souviennent de leur enfance. Ils se souviennent des moments où ils étaient tranquilles, où ils n'avaient rien sur la conscience qui les troublait, où ils étaient en paix, où ils étaient innocents. Et ils aimeraient retrouver cet état. Et on a perdu cela, peut-être au creux d'un rocher, dans une caverne. On a perdu ça. Mais vous savez que le message de l'Évangile, et vous l'avez, on l'a lu dans Ésaïe 35, on l'a lu dans Luc chapitre 7, c'est que Dieu restaure, que Dieu guérit, que Dieu rétablit, que Dieu nous ouvre les yeux. Et c'est un message plein d'espérance, mais ce n'est pas juste un message d'espérance. C'est la réalité de l'œuvre de Dieu. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui dans le monde vont découvrir la réalité de ce message. Bien sûr, pour nous, ça ne coûte pas grand-chose, mais notre ami Samuel qui vient de Malaisie, eh bien en Malaisie, ça coûte à quelqu'un de devenir chrétien, s'il est musulman. De devenir chrétien, c'est accepté par l'État en Malaisie, mais il va falloir, si un musulman se convertit au christianisme, il va falloir qu'il passe par la prison. Et quand il se convertit, il sait ce que ça coûte. Et ce sont des gens, des hommes et des femmes en Malaisie ou dans le monde entier aujourd'hui, qui vont néanmoins, sachant le prix que ça va leur coûter, vont découvrir combien ce message est plein d'espérance, combien ce message s'adresse à leur vie et combien ce message est la seule solution pour leur vie. Quelle que soit donc votre situation ce matin, vous pouvez venir à Jésus, vous pouvez venir en rentrant chez vous un moment, quand vous avez un moment tranquille, eh bien vous allez dans la chambre et vous dites, Seigneur, révèle-toi à moi. Fais cette œuvre dans ma vie. Fais que ces chaînes qui me lient encore au fond d'une caverne, qui m'empêche de voir la lumière, qui m'empêche de voir la réalité, eh bien, je puisse en être libéré. Et vous verrez que Dieu va commencer à intervenir dans votre vie. Le premier type, donc, de problèmes reliés aux yeux, eh bien, ce sont les illusions, n'est-ce pas? Combien de choses, combien de choses que nous croyons être la réalité ne sont qu'une illusion de la réalité. Il y a un autre type de phénomène qui s'adresse à notre perception visuelle, eh bien, sont les mirages. Et dans Ésaïe 35, il est dit que le mirage se changera en étang, n'est-ce pas? C'est au verset 7, le début, le mirage, pardon, se changera en étang. Et voilà un message plein d'espoir. Bien sûr, pour nous, à Hasbrouck, on est rarement accablé par la chaleur, en manque de eau, ce qui veut dire que le mirage, pour nous, ça fait penser plutôt à des avions qu'à des situations terribles. Mais un mirage, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez qu'on peut prendre la photo d'un mirage. C'est-à-dire, ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Le mirage peut être pris en photo. Et vous trouverez sur Internet des photos de mirages dans le désert. C'est une hallucination, ne peut pas être prise en photo, évidemment. Mais un mirage, évidemment, oui. Et l'expérience cruelle du mirage, apparemment, moi, je ne suis pas physicien, de toute façon, je n'oserais jamais, avec certaines personnes qui sont ici présentes, commencer à proposer des explications, parce que j'aurais l'air ridicule. Mais il y a... ce que je vais dire, ça va être très synthétique, c'est que le mirage, c'est effectivement un objet qui se trouve très très loin ou une situation qui se trouve très très loin et avec des phénomènes liés à la chaleur et au froid, eh bien ça donne l'impression que ces objets sont tout près et quand on approche, cette impression, cette sensation disparaît. Mais ce sont des objets réels à l'origine des mirages. Et quand on marche dans un désert, j'imagine, et qu'on a très très soif, et qu'on voit la solution qui est devant nous. On voit qu'il y a de l'eau qui va se présenter à nous. On voit qu'il y a de l'espoir parce que peut-être il y a un arbre qui est clairement devant nous. Je le vois, les autres le voient. Je prends la photo, je regarde, c'est là, c'est donc pas, je ne suis pas en train de dérailler, c'est pas le soleil qui a trop tapé sur la tête. J'ai des hallucinations. Non, c'est là, c'est réel, c'est devant moi. Encore plus que 100 mètres, 200 mètres, et je serai sauvé. Combien de gens expérimentent ça sur le plan spirituel? Si je ne sais pas ce que ça représente pour quelqu'un dans le désert parce que je ne l'ai pas vécu, je sais que je l'ai vécu de nombreuses fois dans des situations de ma vie où j'ai vu devant moi s'adresser, se présenter devant moi ce que je recherchais. Et en s'approchant, eh bien, ça disparaissait. Combien d'hommes et de femmes autour de nous, dans la société qui nous entoure, eh bien, sont victimes de mirages. Parce qu'ils avancent avec des mirages. À chaque fois qu'ils s'approchent un peu trop, eh bien, ça disparaît. Et ils voient que ce n'était pas là, tout près, comme ils en avaient l'impression. Et ici, dans Ésaïe 35, il est dit tout simplement, le mirage se transformera en étang. Jésus est venu pour apporter cette eau vive. Il est venu pour donner cette eau. Et vous savez que, je ne sais pas si Jésus pensait à ce chapitre de Ésaïe 35 quand il parlait de ça, mais c'est tellement évangélique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est tellement rapport avec l'évangile, ce chapitre d'Ésaïe 35, parce que c'est exactement ça, le désert qui se transforme en terre fertile. C'est l'eau qui commence à venir là où il n'y avait plus d'espoir, là où les mirages pouvaient prendre la place. Et vous savez que les mirages sont des choses cruelles qui arrivent à ceux qui ont soif, à ceux qui souffrent du soleil. C'est quelque chose de terrible, le mirage. Mais l'œuvre de Jésus dans une vie, c'est de faire en sorte que nous ayons de l'eau à boire, que nous ayons l'eau de la vie éternelle qui donne. Et si vous avez soif ce matin, si vous avez soif de connaître, si vous dites, Seigneur, je veux connaître la réalité, eh bien, soit parce que vous êtes au fond d'une caverne, lié par des chaînes qui vous font croire que des choses que le monde peut vous faire miroiter, eh bien, c'est ça la réalité. Eh bien, vous pouvez être libéré aujourd'hui, amené à la lumière. Et si vous avez vécu des mirages en disant, voilà, j'ai trouvé la solution, il y a des gens qui nous proposent la solution constamment, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, on vous dit que ça ira mieux. 2014, ça va mieux, de toute façon, qu'en 2013. Et fin 2014, on y dira, bon, il faut attendre 2015. Ça ira mieux en 2015. Et puis, on vous dira ça chaque année. Où est-ce que vous voulez la réalité ce matin? Et la réalité se trouve en Christ. Combien de gens peuvent rencontrer aujourd'hui et ne vont pas rencontrer Dieu parce qu'ils laisseront de côté cet appel de l'Évangile, ce message si fondamental? Combien de gens dans la Bible ont rencontré Dieu dans le creux d'une caverne? Vous savez que Moïse a été mis dans le creux d'un rocher lorsque Dieu a révélé sa gloire. Il était dans la caverne, mais c'est là où il a vu la gloire de Dieu. Vous savez qu'Élie, le prophète, est allé se réfugier dans le creux de la montagne. Et c'est là où Dieu s'est révélé, où Dieu est passé devant lui, dans un murmure doux et léger. C'est là où Dieu s'est révélé à lui, d'une manière spéciale. C'est là où Dieu veut se révéler. Le troisième type de phénomène qui s'adresse à notre système visuel, à notre perception visuelle, eh bien, sont les hallucinations. Et les hallucinations n'ont rien à voir avec des illusions, elles n'ont rien à voir avec les mirages, parce que les hallucinations, c'est la perception d'objets qui ne sont pas présents dans l'environnement. C'est-à-dire que là, vous prenez une photo, évidemment, ça ne figure pas sur la photo. Les autres à côté diront, mais non, il n'y a rien, et pourquoi tu vois ça? Mais les hallucinations ne sont pas si anormales que ça. Dans le sens que ce qui sépare la perception réelle et les hallucinations est très faible. Puisque dans une hallucination, tout simplement, la personne va voir les objets auxquels il pense. Mais lorsque l'on pense à quelque chose, il y a quelque chose dans l'aire visuelle du cerveau qui s'active et qui est la même chose que lorsqu'on voit l'objet. Donc ça veut dire que penser, c'est très proche de l'hallucination. Et si vous ne dormez pas pendant deux nuits, deux jours et deux nuits, vous allez commencer à voir des objets qui ne sont pas là. Vous voyez, de manière naturelle, vous allez commencer à voir des choses, les gens qui sont très très fatigués, eh bien, commencent à voir des objets qui ne sont pas là. S'il y a des produits, bien sûr, chimiques qui favorisent, comme le LSD, qui favorisent les hallucinations, le fait de voir des choses qui ne sont pas là. C'est très très facile d'être victime d'hallucinations. On est probablement d'ailleurs très souvent victime d'hallucinations olfactives, parce que visuel, on peut vérifier que c'est vrai ou pas vrai. Auditive, on peut vérifier que c'est vrai ou pas vrai. On va dire, ben non, c'est pas possible que j'entende cette voix, la personne, il n'y a personne à côté de moi. Mais olfactive, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à vérifier. Eh bien, là aussi, il s'agit de quelque chose qui est erroné. Et c'est parce que l'on voit des choses que l'on a vues dans le passé, parce qu'on entend des choses qu'on a entendues dans le passé, qui se font à nouveau entendre, qui se font à nouveau voir dans le présent et qui ne sont pas là. Et là aussi, peut-être, vous avez le sentiment que spirituellement, vous avez été victime ou vous êtes victime d'hallucinations. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vivre ce que vous avez vécu avec Dieu au départ. Et je pense que c'est le drame des chrétiens qui sont des chrétiens de longue date. C'est qu'on peut reprendre des choses qui remontent au passé et de dire « voilà, c'est ce que je vis avec Dieu, mais c'est plus vrai ». Ça n'est plus la réalité. Dieu n'est plus présent dans nos vies, ou il est moins présent qu'avant. Et on peut avoir l'impression qu'il est présent. On peut dire, je le vois, ou Dieu m'a dit ceci. Combien de gens disent, Dieu m'a dit ceci et cela. Dieu m'a montré ceci et cela. Et ce n'est pas vrai. Dans certains cas, c'est vrai, bien sûr. Dans beaucoup de cas, c'est pas vrai. Dans beaucoup de cas, c'est parce que ils aimeraient que Dieu leur dise ça, ou parce que ils ont réfléchi sur la question et ils pensent que Dieu devrait leur dire ça, donc ils disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». Et je pense que c'est dangereux, je pense qu'on doit faire très attention quand on vient au micro en disant « Dieu m'a montré » ou « Dieu m'a dit ». Donc, que là aussi nos cœurs soient attachés à Dieu, qu'on puisse connaître l'œuvre de guérison de Dieu là-dessus. Et que la réalité de ce qu'on vit, de ce qu'on déclare plutôt, soit corresponde à la réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire que, comme Jésus a pu dire aux disciples de Jean, « Dites-lui ce que vous avez vu et entendu. » Il n'a pas dit « Dites-lui le discours, un discours que je vais vous dicter, ou je vais lui écrire une lettre très convaincante. » Il n'a rien dit de convaincant. Il a juste dit quelques mots. Mais il savait que les disciples de Jean avaient vu les miracles. Et que les disciples de Jean n'allaient pas dire à Jean-Baptiste, quand il retournait vers Jean-Baptiste, « Bon, ben Jésus nous a dit de dire que les malades étaient guéris, que les boiteux marchent, que les... » Voilà, il a mentionné ça, ça et ça et ça. Ils sont revenus vers Jean, ils ont dit, mais écoute, on était là avec lui 1 heure. Et si tu sais ce qui s'est passé en 1 heure, les boiteux marchaient. On a vu des aveugles venir à lui et ils sont partis en voyant. On a vu des sourds et ils étaient guéris, ils étaient excités. On n'est pas excités, nous. Pourquoi ? Parce que on ne voit pas, parce qu'on n'entend pas. Parce qu'on est trop victime d'hallucinations, trop victime d'illusions, trop victime de mirages. Sinon, on serait excité. On dirait, mais le Seigneur a fait de grandes choses. Et ce ne serait pas quelque chose d'artificiel. Parce qu'il y a des églises où on crée cette ambiance. Mais c'est que quelque chose se lèverait, n'est-ce pas ? Je me rappelle avoir entendu ce témoignage, je vous l'ai dit, il y a des années en Cuba, où sous le régime de Fidel Castro encore, eh bien, à son nez, à sa barbe, c'est le cas de le dire, se passaient des choses extraordinaires dans ce pays. Et dans une des réunions, un des cultes, le dimanche matin, eh bien, le prédicateur a prêché. Et il y avait quelqu'un qui était paralysé dans la salle, une dame qui venait depuis longtemps, qui était fidèle, qui était dans son fauteuil roulant et qui s'est levée. Probablement personne ne s'est souvenu de ce que le prédicateur a dit. Ça n'avait aucun rapport avec ce que disait le prédicateur, vraisemblablement. Mais quand ils ont vu cette sœur, le prédicateur a dit, je crois, assis-toi, tu vas tomber. Mais c'était déjà un miracle qu'elle se soit levée. Elle a commencé à marcher, n'est-ce pas ? Et il paraît que toute l'Église a suivi cette femme en se réjouissant, en disant « Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux. » Et cette femme est sortie de l'Église et elle a marché dans la rue et les gens qui la connaissaient ont vu qu'elle était guérie et ils ont suivi cette femme comme ça et les gens se sont suivis à la procession, n'est-ce pas ? Ils n'avaient jamais vu ça dans Cuba. Fidel Castro n'avait jamais pu leur apporter des choses pareilles. Et ensuite, elle est re-rentrée dans l'église et l'église était remplie de gens. Remplie de gens, mais remplie de la joie de Christ. Les gens étaient excités. Ils n'ont pas dit, nous allons terminer la réunion dans la prière en remerciant Dieu officiellement pour avoir guéri la sœur Maria. Elle s'appelait Maria, je crois. Ils étaient excités. Et le problème, c'est que nous ne connaissons pas ces choses-là. Et si nous les connaissions dans nos vies et dans la vie de notre communauté, eh bien, nous verrions des gens excités le dimanche matin. Pas excités parce que ce n'est pas contrôlé, parce qu'ils ne se contrôlent plus, mais des gens qui loueraient le Seigneur de tout leur cœur, parce qu'ils ont vu des choses merveilleuses. Parce qu'ils ont vu des choses grandioses, parce qu'ils ont vu l'œuvre et la puissance de Dieu se manifester. Et c'est ça que nous devons, c'est ce que Jésus nous demande de dire quand on parle à quelqu'un dans la rue. Il nous demande de dire, dites-lui ce que vous avez vu, entendu. Sinon, vous êtes un faux témoin. Parce que témoigner de Jésus-Christ veut dire qu'on doit dire ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. De toute façon, si vous ne l'avez pas vécu, les gens le sentiront, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui sonne creux. Mais quand quelqu'un dit, « Moi, je sais, parce que je l'ai vécu, que la puissance de Dieu vient ouvrir mes yeux, même encore aujourd'hui, après tant d'années de marche avec Dieu, il vient ouvrir mes yeux, il vient ouvrir mes oreilles pour que j'entende. » L'œuvre de Dieu, ça ne s'adresse pas seulement, il n'a pas dit juste qu'il est venu pour guérir les aveugles. Il n'est pas venu seulement pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour toucher les oreilles des sourds. Et la voix de Dieu se fait entendre. La voix de Dieu parle encore aujourd'hui. Jésus parle encore aujourd'hui. Mais il y a une surdité qui est très forte chez nous. Il y a quelque chose qui fait que nous sommes endurcis et nous n'entendons pas cette voix. Jésus-Christ a dit, « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Elles entendent la voix. Et il y a tellement de voix, n'est-ce pas, qui se font entendre dans le monde et dans notre société, dans notre pays. Eh bien, il y a tellement de voix qui se font entendre. La voix de notre famille, la voix de nos collègues, la voix des médias. Alors avec les médias, maintenant avec Internet, on a des voix et des voix et des voix et des voix qui se font entendre. Et vous ne pouvez pas faire le tri, pas plus que moi. Dans toutes les voix qu'on entend, comment savoir laquelle est la bonne voix, V-O-I-E, eh bien c'est impossible de discerner, de savoir. Mais il y a quelque chose que vous pouvez demander, Seigneur, que j'entende ta voix qui me parle. Et vous n'entendrez peut-être pas avec vos oreilles, mais vous entendrez la voix de Dieu qui va vous parler. Vous savez que ceux qui ont vécu ici, ça, eh bien, le savent, ça les a marqués. Et des années après, ils peuvent témoigner combien ça a une influence sur leur vie, quand ils ont entendu la voix de Dieu qui leur parlait, qui parlait à leur cœur. La Bible dit encore une fois, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que l'endurcissement vient de toutes les autres voix qui se font entendre et qui influencent nos vies, qui nous rendent insensibles à la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, vous pouvez entendre sa voix et vous pouvez répondre. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça que Dieu vient faire dans la vie de ceux qui lui demandent. Vous savez, du temps de Jésus, c'était simple. Les gens venaient devant lui, il disait, Jésus, maître, fais ça pour moi. Et peut-être aujourd'hui, vous dites, mais moi, j'aimerais bien que ce soit si simple. Mais c'est encore plus simple. Parce qu'il devait se déplacer pour trouver Jésus, il devait trouver l'endroit où Jésus passait. Mais aujourd'hui, vous pouvez demander à Jésus, là où vous êtes, Seigneur, fais ça pour moi. Fais que mes yeux s'ouvrent, que mes chaînes puissent tomber, que je puisse être libre. Et pour terminer, je vais lire un peu plus du chapitre 35 d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux, à partir du verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Voyez, éclatera de joie, éclatera de joie. C'est quelque chose qui s'est éclaté, ça veut dire que ce n'est pas fait exprès, c'est qu'on ne peut pas. Ça ne peut pas être autrement qu'il faut que ça explose de joie quand Dieu fait une œuvre dans les vies. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà le programme de ce qui attend ceux qui marchent sur cette voie sainte, sur ceux qui suivent Jésus-Christ. Merci.